Alors, nous voilà de retour et c'est le moment de parler sport business avec notre expert Ray Lalonde que vous pouvez suivre sur Twitter à Real Ray Lalonde. Salut Ray, comment ça va?
Salut Jérémy, ça va bien toi?
Ça va très bien. Écoute, on te réserve à toi les dossiers les plus compliqués, les plus gros, disons. Et j'ai pas parlé encore depuis le début de l'émission du rapport, non, en fait, de l'annulation possible des Jeux d'été au Japon cette année. Mais la rumeur circule depuis déjà 2 jours et là, il commence à y avoir vraiment de l'inquiétude à droite et à gauche de la part des athlètes, de la part de tout le monde, à savoir est-ce qu'on aura des Jeux olympiques et pourquoi on parle d'annulation et non de report potentiel pour l'été prochain. Peux-tu nous démêler un peu tout ça, là?
C'est un excellent sujet, Jérémy, puis c'est très complexe. Ça a commencé avec un reportage dans le journal The Times à Londres qui fait état de sources non identifiées au niveau du gouvernement japonais et qu'on commence à être découragé, là. On commence à trouver que dans une métropole de 35 millions d'habitants à Tokyo, avec les conditions actuelles, malgré le fait que le nombre de décès au Japon est relativement bas pour la taille du pays, ça demeure un fait que la pandémie se poursuit tragiquement à travers les semaines, Jérémy, et puis on ne voit pas non plus la lueur d'espoir où on va être capable, dans quelques mois, de pouvoir confirmer le plus grand événement sportif sur la Terre. 11 000 athlètes, 4 400 athlètes paralympiques, 4 000 officiels, des membres des médias, des gens de la télé à tous les niveaux. Et ce qu'on souhaite, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs. Alors, tu comprends que l'ampleur des Jeux olympiques, quand tu as fait une mise pour ces Jeux-là, puis tu as été confirmé en 2013, c'est dû pour 2020. On reporte à cause de la pandémie en espérant qu'en 2021, on va se trouver dans une situation plus calme au niveau de la pandémie. Puis là, on est à la fin janvier, à peu près au même moment où l'an dernier, les premiers signes du coronavirus nous ont affectés. Puis l'an passé, on souhaitait y arriver quand même pour le mois de juillet. Là, on est déjà à 6-7 mois des Jeux qui sont prévus pour le 23 juillet et on n'a pas d'espoir qu'on va être capable, malgré plus d'intelligence, malgré plus de connaissances du dossier d'une pandémie, malgré des vaccins disponibles, malgré les preuves à l'appui que les masques et la distanciation sociale, ça fonctionne. Le fait demeure, c'est que c'est complexe d'attirer autant de monde dans une ville, dans un pays, avec les déplacements qui sont interdits actuellement, et avec la pandémie qui continue de prendre différentes formes. Mais surtout, Jérémy, 25 milliards de dollars de dépensés date d'aujourd'hui.
Wow.
Et si on n'est pas capable de les livrer cet été, ben là, il ne reste pas beaucoup d'espoir. Parce que sinon, on rentre l'an prochain, une année déjà de Jeux olympiques d'hiver.
Exact.
Qui ont lieu aussi en Asie, c'est-à-dire à Pékin, à Beijing. Et sinon, là, les rumeurs, c'est que peut-être qu'on va attendre 10 ans. Mais 10 ans, Jérémy, là, ça, c'est comme quelque chose qui est comme surréaliste. Tout est possible dans 10 ans, là. Tout peut arriver. Ce que je veux dire par là, c'est que si Tokyo veut attendre 10 ans, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il fasse la préservation des infrastructures pendant une dizaine d'années.
Ben,
Dieu sait que la technologie va changer d'ici ce temps-là.
Ben, c'est ça. T'sais, on regarde, par exemple, à Athènes, en 10 ans, là, je veux dire, les infrastructures n'étaient même plus utilisables, malheureusement.
Exact.
Mais là, si jamais c'est reporté ou si jamais c'est annulé, quel genre d'impact ça peut avoir sur la FIFA? Est-ce que ça va leur mettre plus de pression à savoir, est-ce que eux aussi devraient reporter ou, justement, annuler l'euro? Et est-ce que le soccer, c'est plus facile parce que on l'a déjà vu avec la Ligue des champions, tu sais, ça se passe dans un stade, les matchs ont lieu au même endroit, on peut faire des bulles, tandis que dans un village olympique, ça devient beaucoup plus compliqué. Comment tu vois ça, la différence entre les deux grands événements?
Juste pour apporter une précision, là, avant là, de répondre à ta question soccer, je veux juste rappeler aux gens que le Comité international olympique continue d'utiliser le même langage, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est possible pour que les Jeux aient lieu. Le Comité olympique canadien répète le même message. Ça, c'est évident que ça va se poursuivre pour quelques semaines encore, où on va rester optimiste par rapport à Tokyo 2021. Ça, c'est sûr que là, on n'est pas en train de regarder dans une boule de cristal maintenant en disant que ça va être annulé, là. Ce que je veux dire, c'est que peu importe l'article du journal, le Times, c'était compromis d'une manière ou d'une autre à cause de la sévérité de la pandémie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler. Fait qu'on verra ce que ça va donner. On garde encore les droits croisés pour y arriver pour l'été prochain. Pour ce qui est de la FIFA puis de l'Euro.
Ouais.
Ben là, le défi de ça, c'est que c'est le deuxième plus grand événement de soccer au monde après la Coupe du Monde. C'est comme une deuxième version de la Coupe du Monde pour ceux qui le voient moins souvent parce que c'est en Europe. Ben évidemment, l'Europe, c'est la région géographique où il y a le plus de puissance de soccer au monde.
C'est sûr.
Ces pays-là sont tellement compétitifs. Il y a énormément de parité. À part le Brésil, l'Argentine, puis quelques autres petites percées ici et là de d'autres
Mexique,
pays.
Mexique, ouais.
Ben oui, la force du monde entier, c'est l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, ainsi de suite. Et ces gens-là trouvent que l'Euro, c'est leur version de la Coupe du Monde, qui est tout c'est à fait égale, parce que ce sont les mêmes joueurs vedettes qui jouent pour toutes les équipes nationales.
Exact.
Et c'est très important pour eux. Quand ça a lieu en France ou en Allemagne, ben ça s'est dispersé à travers plusieurs villes dans le pays. Donc, c'est certain que c'est un peu plus facile à contrôler que les Jeux olympiques dans ce sens-là, c'est-à-dire que t'as moins d'athlètes, t'as moins de visiteurs, t'as plus de locaux qui sont sur place et avec des visiteurs de certains pays. Il y a moins de traversées outre-Atlantique, bien sûr. Donc, il y a des avantages de l'euro qui sont peut-être plus gérables que pour les Jeux olympiques qui littéralement affectent 200 quelques pays dans le monde entier.
Ouais.
Alors ça, c'est une chose. La diversité des disciplines dans les Jeux olympiques, ça complique aussi les choses parce que t'as toutes sortes d'événements, d'infrastructures puis d'occasions dans différentes sphères puis dans différents amphithéâtres qui font que les Jeux olympiques aussi sont complexes à gérer.
Tandis
qu'au soccer, c'est un sport extérieur, soccer, football. Ce sont des stades de haute qualité. T'es capable d'avoir des mini-bulles puis des installations pour tester dans chacun de ces endroits-là. Et t'es capable de garder les joueurs confinés.
Exact.
Ça se fait. Honnêtement, ça se fait plus facilement. Mais je gagerais pas là-dessus si jamais on continue d'aggraver la situation pandémie. Je suis pas certain que la FIFA puis l'Euro a plus de chances de tenir l'événement que les Jeux olympiques. Mais ça reste à voir et pour le moment, c'est encore sur place sur l'horaire du calendrier.
Deux autres petites questions pour toi. Étant donné qu'on parle un petit peu de soccer, hier, ça a été officiellement annoncé que les négociations ont repris entre la MLS et l'Association des joueurs. Ça, c'est une excellente nouvelle. Pour résumer un peu la situation, on est à 7 jours, entre guillemets, d'un potentiel lockout. Là, on veut s'entendre avant le 1er février. Ce que la MLS propose, c'est que les joueurs soient payés à 100% sur leur salaire, mais que la convention collective soit étirée de 2 saisons de plus sous les mêmes termes, donc qui les amènerait à 2027, donc au-delà de la Coupe du Monde. Du côté des joueurs, on dit « Ouais, c'est bien beau, vous nous payez 100% de notre salaire, mais le plafond salarial demeure au même montant l'année prochaine, donc on est un peu fixé là. On est payé au 100% de salaire, mais il n'y aura pas vraiment d'augmentation. » Et eux craignent que dans 5 ans, ils vont vraiment le regretter lorsqu'il y aura un manque à gagner avec la Coupe du Monde qui va venir et tout ça. Ils ne pourront pas en profiter tout de suite. Comment t'analyses cette offre de la MLS?
Ben, je pense que l'offre est juste, Jérémy. Honnêtement, il faut regarder les choses de façon objective, concrète. La réalité, c'est que les propriétaires d'équipes sportives dans tous les sports perdent de l'argent. En tout cas, on va appeler ça, si tu veux, une baisse énorme de revenus. Ça veut dire que quand tu es une ligue qui dépend beaucoup des revenus de match, puis des billets vendus, puis toutes les dépenses occasionnées par un événement, ben, et puis tu n'as pas de partisans là, forcément, il y a beaucoup de revenus qui ne sont pas au rendez-vous. Alors, les joueurs, évidemment, sont, si tu me le permets, entre guillemets, là, des employés. Ils doivent accepter que des conditions vont changer lorsque la nature de l'industrie change. Et c'est le cas. C'est pas parce que les propriétaires de la MLS tentent de resserrer puis de squeezer, si tu me permets, là, les athlètes, bien non. C'est qu'à quelque part, ils ont souffert, ils ont perdu des revenus. La Ligue, avant la pandémie, se portait très bien. On a vu beaucoup d'expansion depuis les 10 dernières années. Beaucoup de nouveaux dollars de réinjectés dans l'économie de la MLS. C'est très, très bon. Puis ça témoigne du succès de Don Garber comme commissaire. Mais comme toutes les ligues, il y a toujours des conflits, de la tension. Surtout lorsque l'argent vient jouer un rôle, puis lorsque l'argent est en jeu. Puis les joueurs, les athlètes, veulent pas perdre une occasion. Mais de nos côtés, ils doivent accepter que si la Ligue veut prolonger de 2 ans, c'est pour se donner une chance, 2 ans plus tard, avec un retour à la normale, Jérémy, de récupérer plus de dollars perdus actuellement. Fait que, OK, on va vous payer votre 100%. Ça, c'est déjà une grosse chose de gagner pour les joueurs, mais donnez-nous 2 ans de plus pour qu'on puisse nous contrôler. Dans le sport, Jérémy, c'est une question de certitude, de dépenses et de revenus. Puis les propriétaires veulent des garanties. Ça va nous coûter ça pour opérer notre ligue, puis on va générer ça en retour. Donc, ben, on a une formule gagnante. C'est tout ce
moi, je pense que si on passe au vote, ça va passer parce que les joueurs vont dire, regarde, moi, je ramasse 100% de mon argent tout de suite. Ben puis ceux qui sont là dans 4, dans 5, dans 6 ans, moi, je serai peut-être plus là. Ben, ils s'arrangeront avec le reste. C'est souvent, quand, écoute, j'ai déjà fait partie des syndicats, donc j'ai une petite idée.
C'est un bon point, Jérémy, parce que ce que tu dis, tu viens de le dire, là. Les joueurs, là, ils savent que leur carrière est de courte durée.
C'est ça.
Ils n'ont pas de temps à perdre là, pour l'avenir de la Ligue. Là.
Non, c'est maintenant c'est ça, exactement. Bon, un petit mot sur le UFC de ce soir, 257. Le combat principal opposera Dustin Poirier à Conor McGregor, qui va gagner à peu près 5 millions pour ce combat-là. C'est deux gars qui se sont déjà affrontés en 2014. McGregor l'avait emporté facilement au premier round. Mais là, tout le monde indique et tous pensent que Dustin Poirier a une bien meilleure chance de le battre, étant donné qu'il a été plus actif récemment que son adversaire. Ça demeure, les UFC, des gros événements payants. Maintenant qu'il n'y a pas vraiment de monde dans les amphithéâtres et tout ça, ça représente quoi, business-wise, un UFC comme celui de ce soir?
Écoute, le UFC, à date, ce soir, a plus de 1,6 million d'achats pay-per-view déjà, là. Et normalement, ces achats-là aussi se déroulent dans les dernières heures qui précèdent un combat ou une soirée, parce que c'est là que les gens s'excitent puis de façon impulsive achètent. Donc, pour avoir été un de ceux-là, moi aussi, je peux te dire que je m'attends à des chiffres qui vont augmenter ce soir. C'était un succès foudroyant pour Dana White. Écoute, parmi tous les sports au monde, il y a une ligue qui s'est distinguée pour, si tu me permets l'expression, combattre la pandémie de façon innovative. Et créative. Ben oui. Puis ce qu'ils ont été capables de faire.
La fameuse île, là, l'île.
La Fight
l'idée
Island.
De l'île, là, ouais,
ben
c'est
oui.
Ça.
Fight Island, là, ça a été la solution pour que UFC continue d'exister. Alors, faut applaudir les efforts de UFC. Puis Conor McGregor, pardon, c'est le visage. C'est la grande gueule de la UFC.
Ben
c'est
oui.
Le garçon, le méchant et le bon.
C'est parfait. Tu l'haïs ou tu l'aimes.
Exactement.
Mais personne n'est
indifférent. C'est celui qui symbolise.
Exact.
Il symbolise ce que c'est les combats d'arts martiaux mixtes et ce que c'est d'être un entertainer, un artiste dans un sport de haute violence. Honnêtement, là, il faut lui donner ce qu'il mérite, il faut le payer, il faut reconnaître que UFC continue son bout de chemin et s'est adapté au fil des années. Mais Jérémy, c'est pas facile parce que les carrières sont de courte durée, tu le
c'est
sais.
Vrai.
Parce qu'il manque de vedettes. Tu sais, quand les gars comme Anderson Silva se retirent puis tout ça, on les remplace pas du jour au lendemain, des John Jones, puis des Brock Lesnar, puis des gars comme ça. Fait que le retour de Conor McGregor, c'est vraiment important pour eux ce soir, et c'est certain que Poirier a une meilleure chance, parce que tout le monde vieillit, et McGregor s'est fait battre à quelques reprises lors de ses 5-6 derniers combats. C'est pas le même qu'avant, mais je pense qu'il le prend au sérieux, je pense qu'il se donne une autre chance, je pense qu'il voit aussi que sa carrière ne s'éternisera pas. Puis c'est l'occasion pour lui de continuer de bâtir son rayonnement et sa popularité mondiale.
Merci beaucoup, Ray. On peut te suivre sur Real Ray Lalonde du côté de Twitter. Merci d'avoir pris du temps et on s'en reparle très bientôt.
Avec plaisir, Jérémy. Salut.
Merci beaucoup. Salut. Petite pause au retour de ceci. Stéphane Leroux va nous parler de la relance du hockey junior au Québec.